la série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Jérôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Jour d'août, de ma fenêtre je vois le ciel. Il est bleu, mais moins bleu qu'il y a quelques semaines. Il fait un peu de vent, quelques feuilles sont tombées à terre. J'ai mis ma veste d'appartement, car à l'intérieur des maisons il fait un peu frais. L'on frappe à la porte. Il sort de sa rêverie et va ouvrir. C'est une petite vieille, maigre, cheveux blancs, habillée d'une robe noire. « Qu'est-ce que tu veux, Jeanne ?»«
Rien, Alexandre, rien, si ce n'est que ce bruit qui résonne dans ma tête. L'eau creuse, je t'assure que l'on creuse dans la cave. »
La pauvre vieille froisse son mouchoir avec ses mains tremblantes. Alexandre la prend par le bras et la fait asseoir dans un fauteuil. Est près de la fenêtre.
Tu entends toujours des bruits, Sean ?
Oui, Alexandre.
Je vais te donner tes comprimés. Tu verras, ça ira mieux après.
Il sort de la pièce pour aller dans la chambre de Sean pour prendre dans sa table de nuit les comprimés.
Les volets sont restés fermés dans la chambre et le lit n'a pas été fait.
Alexandre prend les comprimés et sort.
Il lui donne les deux comprimés qu'elle avale, puis un verre d'eau qu'il lui sert.
Maintenant, vous n'entendrez plus ces bruits qui viennent de la cave. Pourtant, je vous assure, vous devez... devriez y aller. On creuse, on creuse. Je suis sûr que l'on creuse.
Mais non, il n'y a rien dans cette cave. Allez, détends-toi un peu. Jérôme ne va pas tarder à venir. Vous n'avez pas oublié qu'il vient aujourd'hui.
J'entends encore que l'on creuse. On creuse.
Alexandre soupire et va s'asseoir à son bureau. À Lyon, rue Victor Hugo, entre dans la bijouterie Bérange un homme et une femme. 11h30, la bijouterie n'a pas de client, le vendeur s'approche d'eux. Vous désirez ? L'homme et la femme sortent un revolver de leur poche de gabardine.
Tu es seul ?
Oui, les employés sont partis manger.
Très bien. Ouvre ton coffre.
Le bijoutier lui fait signe de la main qui se trouve dans une autre pièce. L'homme et la femme le poussent dans cette pièce.
Ouvre le coffre. Il n'y a presque rien dedans.
L'homme lui fait signe avec le revolver de se mettre au travail. Le coffre est ouvert. Quelques billets et quelques bijoux. L'homme lui donne un sac pour qu'il puisse le remplir. Du magasin s'ouvre. Les employés qui viennent reprendre leur poste. L'homme et la femme se regardent. L'homme arrache le sac de voyage des mains du bijoutier et ils sortent de la pièce en courant vers la sortie. Sonnerie retentit. Mais la femme court, la rue est presque vide. Entre dans une R5 et la voiture démarre. Entend arriver la police.
On a tout de même quelques bijoux et de l'argent, non? Mais où est le sac?
On retourne pour voir s'il n'est pas sur le siège arrière.
Merde! Je l'ai oublié sur le trottoir.
Quoi? Qu'est-ce que tu as fait?
Pourquoi tu l'as déposé sur le trottoir?
C'était pour ouvrir la porte de la voiture.
On a fait tout ça pour rien, espèce d'idiot. J'en ai assez. Voilà des mois que tu fais connerie sur connerie.
J'arrête. Je te laisse. Tu continueras tout seul tes bêtises. Si tu veux, tu peux me quitter.
Moi aussi, j'en ai assez de traîner une poufiasse comme toi. D'ailleurs, je voulais changer de vie, me ranger. Je voulais demander à mon père de m'aider pour ouvrir un petit restaurant.
Bien, c'est ça.
Et en attendant de te ranger, tu vas arrêter ta voiture là pour que je puisse descendre.
Ah, là, là, pauvre con.
Arrête.
Tu m'en avais bien raison. Tu n'es qu'un bon à rien,
un imbécile, un crétin.
Ah, là, là, pour que je puisse descendre.
Et il arrête la voiture. Il ouvre la porte et sort de voiture.
Pauvre mec, même au lit tu ne valais pas grand-chose. Allez, va-t'en donc, salope, retourne sur le trottoir.
Elle ferme la porte de la portière violemment et la voiture part en trompe.
Toujours les mêmes, toutes des garces. C'est elles qui nous empêchent de réussir dans la vie.
le soleil. De ça, on n'en a plus besoin. Il voit dans le tiroir à gants son revolver. Il le prend, le remet dans le tiroir. Sortie de Lyon, direction Grenoble, Saint-Martin-d'Hères. Dans la journée, se promène dans son jardin. Depuis qu'il est à la retraite, il s'ennuie un peu. Il a tant travaillé durant sa vie. Ah, ça n'a pas été facile, il se souvient. Ses parents habitaient un petit village dans le Loisan. Il vivait dans une ferme. Il y avait 3 filles et lui, le garçon. Alexandre a eu une enfance très choyée. À 27 ans, il a fait la connaissance de sa femme. Elle avait 20 ans. Elle était en vacances au village. Ils se sont aimés et voulaient se marier. Mais les deux familles ne voulaient pas. Il fallait qu'il ait une situation. Alexandre décida d'arrêter ses études et d'aller vivre à Lyon avec Edmé. Ils sont partis. La famille n'a pas pu les retenir. Alexandre trouva un travail de calicot à la Part-Dieu et Edmé continuait ses études. Au bout d'un an, ils se marièrent à Grenoble. La grand-mère d'Edmé mourut et laissa à la petite fille une petite maison à Saint-Martin-d'Hères. Sam travaillait avec son beau-père qui tenait un entrepôt de matériel en plastique pour le bâtiment. C'était difficile car le beau-père avait un caractère coléreux et il buvait. Il traitait Alexandre comme un chien et lui faisait faire n'importe quoi. Edmé, qui était une jeune fille au caractère d'enfant gâté, devint une femme, et une femme qui ressemblait à son père. Elle ne buvait pas, certes, mais elle prenait son entourage et son mari pour des domestiques. Elle voulait mener la grande vie, travailler, avoir une femme des ménages, dépensait beaucoup. C'était elle qui décidait de tout. Elle était de plus en plus exigeante, du point de vue sexuel aussi. Et elle faisait aussi le vide autour d'Alexandre, l'empêchait de le voir ses amis. Même son meilleur ami n'avait pas le droit de le voir. Ceci attristait beaucoup Alexandre, mais était tributaire de sa femme et de sa belle famille, pour le travail comme pour le logement. Alexandre n'avait rien à lui. Un jour, ils eurent un garçon. Alexandre l'aima beaucoup. Mais le petit était plus proche de sa mère. Puis, il y a de cela 15 ans, sa femme l'a quitté pour un autre. Et depuis, il vit seul avec sa sœur à demi folle. Sonnette de la porte du jardin a retenti. Alexandre va voir. Il ouvre la porte.
Bonjour Jérôme.
Bonjour père. Le père le conduit à la maison, qui est une petite maison de banlieue sans style. La façade était repeinte en beige. Il y a dans la petite entrée un coffre-bar au pied des escaliers en bois. Sous les escaliers, une porte qui mène à la cave. Ils montent tous les deux les escaliers.
Manger, mon petit?
Oui, en route, je suis arrêté à Bourgoin.
Tu viens loin?
Non, Lyon. Il fait rentrer dans son salon. Ils s'envolent l'un en face de l'autre sur des fauteuils.
Alors, qu'est-ce qui t'amène?
Rien, père, je suis venu vous dire bonjour.
Tu restes combien de temps?
Je ne sais pas, une semaine.
Jérôme se sent gêné devant son père. Il devient petit garçon. Puis la mort de sa mère, il ne vient guère à la maison. Alors il l'avait quitté dès l'âge de 17 ans. Le médecin avait dit à ses parents qu'il fallait faire très attention à lui. C'était le genre de personne qui croyait à tout ce qu'il pensait, à tout ce qu'il rêvait, et restait adolescent toute leur vie. La vie était un roman pour lui. Souvent, il volait ses parents et prenait le train pour Paris. Il voulait être chanteur rock. Comme il n'y avait que Paris pour lancer les vraies vedettes, arrivé à Paris, il déambulait dans les rues au hasard, ne sachant que faire, avec sa guitare à l'épaule. Il mangeait dans les restaurants, couchait sur les bancs ou dans les allées. Il faisait des rencontres de jeunes comme lui ou de moins jeunes aussi, tout aussi paumés que lui. Puis, il arrivait un jour où il n'avait plus d'argent. Alors il faisait la manche, vendait et consommait de la drogue. Après quelques jours de cette vie, il était ramassé par la police et ramené chez lui par une convoyeuse. Alexandre était triste de voir son fils agir comme cela. Il n'osait pas lui parler, que ce soit pour lui faire des reproches ou lui dire sa joie qu'il avait de le revoir. La mère, elle voyait cela avec insouciance. Au fur et à mesure qu'il grandissait, ses fugues étaient de plus en plus rapprochées et longues. Il faisait de grosses bêtises comme un gosse. Volait une mobilette dans les grands magasins. Quand il était adulte, on le mettait en prison. Il avait de plus en plus de mauvaises fréquentations. Sans argent, il lui arrivait même de se prostituer à des femmes ou des hommes mûrs. L'affaire de la bijouterie n'était qu'un épisode de sa vie bien mouvementée. Maintenant, il avait sa lubie. Elle était d'ouvrir un petit restaurant. Et là, papa l'aiderait. De toute façon, il le rembourserait. Un restaurant, c'est un bon placement. Ça marche toujours. Quand est rentré au salon, dire bonjour à son neveu.
Bonjour, tante. Comment allez-vous? J'entends toujours ces bruits qui viennent d'en bas. Toujours, toujours, toujours.
Les deux hommes, Alexandre est grand, les cheveux grisonnants, visage calme. Jérôme, il a gardé une silhouette d'adolescent de 30 ans. Il est plus petit que son père, maigre, des cheveux noirs, mi-longs et un visage d'enfant. La tante se sent fragile au milieu de ces deux êtres. Jérôme a repris la chambre de son enfance. Elle n'a pas changé, avec son lit bateau, son bureau. Se trouve dessus une MacMonde. Sur les murs, des posters d'affiches de cinéma et de chanteurs. Plafond, peint avec des ficelles, une maquette d'avion. Alexandre a une bonne à tout faire. C'est une jeune fille de 18 ans. La fille de sa première bonne. En fait, c'est sa fille à lui. Par un soir d'orage où il se sentait seul, Edmé était sortie avec un de ses amis. Ni la fille savent qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Sans trait d'Aline d'une façon très paternaliste. Mmh. jours passent. Jérôme ne fait rien. Et la plupart du temps, dans sa chambre, allongé sur son lit, il attend le bon moment pour parler à son père. Famille est réunie que durant les repas. Soir, Alexandre lit son journal. Jérôme fume assis dans un fauteuil et regarde la bonne débarrasser la table. Tant qu'il est recroquevillé dans son fauteuil et de temps en temps elle se lève en sursaut et crie « Vous avez entendu ?» Puis elle se rassoit. Jérôme trouve la bonne à son goût. Mais s'aperçoit que son père est toujours après elle. Il croit qu'il couche avec. Et cela le rend jaloux. Soir dans sa chambre, il se dit « Et si j'essayais, je ne suis pas plus mal qu'un autre. Il couche avec mon père, c'est qu'elle n'a personne d'autre. » Jérôme reste dans la salle à manger où la bonne fait les derniers rangements avant d'aller se coucher. Jérôme la voit aller venir, il la trouve bien à son goût. Taille moyenne, bien proportionnée, brune. Les seins semblent menus et fermes. La croupe jeune et petit garçon. Cela changera de ces femmes mûres qu'il a eues. Il se lève et s'approche d'elle. Elle essuie la table. Elle se retourne et rougit. « Oui, t'es bien foutu !» Il l'entoure à la taille. « Si tu voulais !» Elle se dégage. « N'insiste pas !»« Mon père te suffit ?» Elle le gifle. « Êtes fou ? Votre père n'a jamais essayé !» Vous giflez rudement fort. « Mais je ne vous en veux pas. J'étais impoli, pardonnez-moi. » Il a la main sur la joue. Cela vous fait mal, pardonnez-moi. Il entoure la taille des deux mains et se laisse faire. Je ne vous en veux pas, j'étais impoli, pardonnez-moi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas? Je ne vous plais pas? Il lui caresse légèrement la croupe. Je n'ai pas dit cela, mais vous allez un peu fort et vite. Ah, vous voulez que je vous drague, fasse la cour. Il se retire, fait de grands gestes, se met au milieu de la pièce. Vous voulez sans doute que je vous dise que vous êtes belle, que je vous écrive, envoie des fleurs, que nous allions danser, nous promener, bras dessous, c'est ça, hein? Elle sourit. Il court à un vase, prendre les fleurs, les lui apporter en mettant un pied à terre. Voilà les fleurs, mademoiselle. Elle les prend et lui dit « Merci ». Il se relève. Il lui dit « Voilà, vous êtes satisfaite ?» Elle fait oui de la tête. « Mais tout ça, c'est démodé, vous savez. Je vais vous montrer comment on drague maintenant. » Il la fait asseoir sur une chaise et lui reste debout.
content que tu sois venu à mon rendez-vous. Ça me fait plaisir, tu sais. Je te trouve drôlement chouette. Tu es belle. Tu ressembles à ma mère. Si tu savais comme ma mère est belle. C'est une grande vedette, ma mère. Ouais. Mais pourquoi tu fais la gueule? C'est parce que je t'ai dit que tu ressemblais à ma mère. Mais ma mère est une actrice. C'est une grande vedette. Elle est connue dans le monde entier. Si tu savais... Oh, t'es rudement chouette. Pourquoi tu fais la gueule? T'es une vraie pimbèche, toi. C'est parce que j'habite dans une zuppe que l'on ne sait pas vivre. Je veux que le peine, moi. C'est pas parce que je suis au chômage que je n'ai rien. J'ai la R5 de mon père que je peux prendre quand je veux. Hein? Et puis je me suis assis acheté à crédit une chaîne chez Darty. Ouais, à 15%. En 15 mois, chouette et rudement forte, je peux même prendre Radio Canu pour les enfants du destin tous les dimanches, de 18h à 20h, avec la pulpeuse Sweetie. Et t'as vu mon blouson, hein? C'est pas du cuir, mais l'on dirait, je l'ai acheté au marché. C'est mon pote qui a dessiné l'aigle derrière, là. Mais pourquoi tu fais la gueule? C'est parce que je suis au chômage. Mais ça ne fait rien, j'ai de l'argent. Tiens, si tu veux, je te paye un resto. Ouais, en ville, rue de l'Arrêt. Il y en a un qui est pas mal. Tu prends le bus 12 et le métro. Tu verras, je connais un resto chic et bien. On y mange pour 25 francs. C'est McDonald's. Mais pourquoi tu fais la gueule? C'est parce que je t'ai dit que tu ressemblais à ma mère. Ouais, tu lui ressembles. T'es roulé comme elle, tu as ses seins. Ah, ne me fais pas la gueule, ma mère est une vedette. On la voit de partout, dans toutes les télés du monde. Je peux même te dire que ses films ne sont même pas coupés. C'est interdit, tu te rends compte? On interdit de couper les films de ma mère. Et elle des affiches comme ça. Tu sais qui c'est, ma mère? C'est la mère Denis.
Ouais.
Allez, sois gentil, tu lui ressembles tellement. Je t'en prie, dis comme elle. C'est ben vrai, ça. Il sourit et dit « C'est ben vrai, ça !» Il l'embrasse sur le front, prend par la main et il monte dans la chambre de la jeune fille. Il se trouve en haut sous les toits, mais c'est une belle petite chambre, plus propre que celle de Jérôme. Que la porte s'est refermée, il la prend dans les bras et l'embrasse. Se dégage un moment apeuré. Il faut que je te dise, je suis vierge. Je ne prends pas la pilule. Il sourit. Mais tu n'en as pas besoin. Tu as peur? Ne crains rien. Je sais ce qu'il faut dans ma poche. Tous les mardis à Radio Canu, Denis Fay dit qu'il ne faut pas l'oublier. Quoi? Chut. Et il la porte jusqu'au lit, l'allonger. S'allonge auprès d'elle, la caresse, l'embrasse tout doucement. Met la main sur son chemisier, lui caresse la poitrine, les seins deviennent fermes, elle a les yeux fermés. D'une autre main, sous sa jupe, il monte jusqu'au haut des cuisses. Elle reste les jambes écartées et accepte cette main si chaude sur son slip. Il continue à l'embrasser, puis met la main dans le slip et tout doucement le fait descendre la main dedans. En lui caressant les seins et en l'embrassant, il bande tellement qu'il en a mal. Une fois que le slip est à demi descendu, c'est la jupe et le chemisier qui l'enlève. Ensuite, c'est à lui. Les yeux fermés, quitte son pantalon et enlève son slip. Son sexe est à l'horizontale.
Oh.
Aline repose sur son lit, nue, sous ses draps, les cheveux défaits. Le lit est en désordre, les vêtements traînent à terre. Sur le drap qui recouvre Aline, une tache rouge. À terre, près du lit, un préservatif souillé de sang. La chambre est éclairée par les rayons du soleil qui s'infiltrent par l'ouverture des persiennes. Jérôme est à la cuisine avec sa tante. Ils prennent tous les deux leur petit déjeuner.
Comme j'aimerais qu'Aimée revienne. La vie était plus gaie, tu te souviens? Et pourquoi est-elle partie? C'est depuis son départ que je suis malade, que j'entends des bruits qui viennent de la cave. C'est la nuit de son départ, mais elle reviendra sûrement. Cette nuit, j'ai rêvé à elle. C'est bon signe. Je suis sûr que même après 15 ans, elle sera toujours aussi belle.
Jérôme est aussi l'amour. Lui l'aime bien et aimerait en faire sa femme. Le soir, ils font des projets d'avenir avant de faire l'amour.
Tu sais, Aline, je vais me mettre à mon compte. Je vais ouvrir un restaurant. Tu verras, ils seront très heureux.
Le temps passe. Jérôme trouve le temps long. Il a hâte de partir avec Aline et l'argent en poche.
Un soir, quand son père et lui sont au salon, il décide de lui demander de l'argent. Je ne peux pas te prêter de l'argent, mon petit, puisque je n'en ai pas.
Cette nouvelle déconcerte Jérôme.
Mais père, je vous rembourserai. Un restaurant, c'est un bon placement.
Le père se lève et fait les 100 pas.
Rembourser, toi? Je sais très bien que je ne reverrai jamais mon argent.
Vous ne me faites pas confiance?
Mais si, je t'aime bien. Mais tu es tellement instable et rêveur.
Jérôme se sent petit garçon et furieux contre son père.
Alors vous ne voulez pas me prêter cet argent?
Non.
C'est votre dernier mot?
Oui.
Alors allez au diable!
Il lui jette au visage un cendrier en pierre.
Omer court pour se pencher sur lui.
Sang coule au front. Le père ne bouge plus. Il était cardiaque.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait?
Jérôme se relève affolé. Marche en se tordant les mains.
Merde, merde, merde.
Il faut gagner du temps.
Cacher le cadavre, prendre de l'argent et partir à l'étranger avec Aline. Mais où le mettre? Oui. Où le mettre? Heureusement qu'elles n'ont rien entendu.
réflexion, il décide d'enterrer le corps de son père à la corve. Il prend son père sur le dos, sort du bureau, ouvre la porte de la corve qui se trouve sur les escaliers et descend les escaliers de la corve. Est lourd. Il sue. Arrivé en bas, il dépose le corps à terre. Il prend une pelle qui servait pour le charbon et il commence à creuser. C'est dur à creuser. Il creuse, creuse, creuse. Tout à coup, il sent quelque chose de mou. Il s'arrête un moment, puis il continue à creuser. Apparaît en soulevant des pierres dessus un cadavre en décomposition, presque un squelette, avec de la chair qui pend, des cheveux longs noirs. Il porte une robe noire et au cou une chaîne en or avec une croix. Jérôme voit avec horreur tout ça et reconnaît la chaîne, c'est celle de sa mère. Il lâche la pelle, remonte en courant les escaliers. Rencontre qui descend les escaliers sa tante en chemise de nuit. J'ai entendu du bruit. Je savais bien qu'elle reviendrait. Je savais bien. Elle s'accroche à Jérôme. Tu l'as vu, toi, Jérôme? Tu l'as vu? Je me souviens maintenant. C'est ton père qui l'a enfermée à la corve pour pas qu'elle parte. Jérôme se dégage. Elle descend. Lui monte.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Jérôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.